philosophie de la nature, la philosophie de la matière, philosophie de la bonté de Dieu. Ce serait très intéressant, du reste, de voir les liens. Parce que, en dernier lieu, pourquoi Dieu a-t-il créé la matière ? C'est un nota bene, hein, c'est pas la suite du cours. Mais c'est à cause des circonstances particulières. Normalement, le cours de la contemplation de la bonté se fait avant le petit déjeuner, comme apéritif. Enfin, c'est le meilleur. Si les deux cours se tiennent, c'est la bonté de Dieu qui pousse Dieu à aller le plus loin possible dans la communication de ce qu'il peut communiquer. C'est la bonté est diffusive de soi. C'est un adage, ça. C'est pas un principe. Ça. On dit toujours la bonté est diffusive de soi. Diffusez-vous, oui. C'est-à-dire qu'un être bon, je vous disais tout à l'heure, le principe, c'est que la bonté attire. Et on dit la bonté se diffuse en attirant. C'est ça la question très différente de celui qui est agité et qui veut faire beaucoup de choses par l'agitation. Et celui qui fait beaucoup de choses en attirant, en contemplant. Et il y a deux apostolats différents. Il y a l'apostolat de celui qui court après le lièvre. Et les chasseurs, ils courent après le lièvre. Il a repéré quelqu'un, il court après. Il court après le plus qu'il peut. Puis celui qui attire l'attraction, la contemplation, la vie apostolique d'un noviciat, c'était tellement fervent qu'il attire. Et tout le monde vient écouter des novices qui prient. C'est l'attraction. L'apostolat d'un père dans un prieuré, il court après le lièvre. Sûrement. Et c'est là, on voit très bien, toujours la très grosse difficulté de maintenir en nous un poids suffisant de contemplation pour ne pas être celui qui court après. Cause efficiente, être une cause finale qui attire. Or, Dieu, étant souverainement bon, veut se communiquer le plus qu'il peut jusque dans la matière. C'est ça qui est extraordinaire, ça on le verra. Je ne le traite pas maintenant. Mais c'est très beau de voir ça. C'est une des choses les plus, pour nous, les plus émouvantes. Mais je comprends mieux la bonté de Dieu qui crée un monde matériel que si je ne regardais que le monde des esprits. Parce qu'il y a comme une sorte d'entente mystérieuse insister là-dessus pour que vous compreniez bien la découverte de ces deux causalités. La causalité matérielle dans la nature, matière. La causalité formelle dans la nature, forme. Et ces deux causalités sont immanentes. L'échauffer naturellement, le soleil. C'est naturel. L'effet du soleil sur moi, est-ce que c'est artificiel? Est-ce que c'est artificiel? Quand je me mets, je prends un bain de soleil. Est-ce que c'est artificiel? Ou est-ce que c'est naturel? Posez-vous la question. Et tant que vous n'aurez pas résolu cette question-là, vous ne comprendrez pas ce que c'est que le mouvement. L'altération, c'est naturel. Vous passez... redécouvrir ça. Quand on fait la philosophie de la nature, on revient primitif pour comprendre ce que c'est que les effets de la nature. La nature est cause-efficiente, mais d'une manière immanente. Elle est cause-efficiente du mouvement naturel. Au bout d'un certain temps, s'évapore. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus que de la fumée. Quelle drôle d'histoire. Vous brûlez du bois. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus que du feu. Il n'y a plus de bois. Tiens. Qu'est-ce qu'il est passé, le bois? Où est-ce qu'il est passé? Il est passé dans le feu. Vous avez alimenté le feu en mettant du bois. Les scouts savent très bien faire ça. Vous alimentez le feu en mettant du bois. Si vous n'étiez pas le bois, le feu s'éteindrait. Avec le bois, il continue. Mais voyez, cette chose farouche, c'est que le feu augmente et que le bois diminue. C'est la guerre des requins. C'est le plus puissant qui emporte l'autre. Jusque dans la nature, c'est comme ça. C'est quand même extraordinaire, ça. Et quand vous chauffez l'eau, c'est encore la victoire du feu sur l'eau. Et donc, il y a trois mouvements naturels. Trois mouvements naturels différents. Et qui sont immanents. À partir de là, on va étudier ce qu'est le temps et le lieu. Parce que le mouvement de ce qui est mu se réalise dans le temps et se réalise dans un lieu. Ce sont les mesures extérieures et extrinsèques à la nature. Alors, il y a une très belle étude du temps et du lieu chez Aristote. Alors, je ne la fais pas avec vous ici, puisque le père Marie-Dominique Gouthière la fera avec vous après Noël. C'est-à-dire que ce premier moment sur la philosophie de la nature est rapide. Puis après, vous étudierez dans les physiques d'Aristote le temps et le lieu. C'est très important. Le temps et le lieu. Les liens entre le temps et l'infini, le temps et la toute-puissance et l'omniprésence. Et c'est du temps et du lieu se fait à partir du mouvement naturel. C'est la mesure du mouvement naturel et la mesure de ce qui est mu. Je veux avec vous maintenant plus exactement regarder. Donc voyez, je l'ai dit parce que c'est bon de voir successivement la philosophie de la nature étudie, découvre la nature comme principe matériel, comme principe formel, comme principe efficient, comme principe final. Vous étudiez le fruit propre de ces causalités naturelles. C'est le mouvement. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a trois mouvements de type tout à fait différent. Le mouvement d'altération, le mouvement de génération, le mouvement local. Et ayant vu ces différents mouvements, vous pouvez à partir de là étudier que ces mouvements se font dans le temps. Et que ces mouvements se font dans tel lieu. Donc il y a étudier le temps et le lieu. C'est intéressant, l'étude du temps et du lieu, parce qu'au fond, l'homme cherchera toujours, par le point de vue artificiel, à conquérir le temps et le lieu. Le TGV, l'avion, c'est une conquête sur le temps. Parce que vous allez beaucoup plus vite en avion que par un mouvement naturel. Même si vous êtes une cheville, a trouvé la brouette. C'est pas bien, ça va pas très vite, ça fait rien, c'est quand même bien. Ensuite, vous avez, et puis alors, c'est la conquête artificielle. On a besoin de conquérir le temps, c'est extrêmement curieux. La conquête du temps séduit, séduit. Alors, pour ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le temps et pourquoi l'homme, naturellement, désire conquérir le temps. Et c'est l'intervention de l'esprit sur la matière. Parce que c'est une conquête de la matière, conquérir le temps. C'est pour ça qu'on est, on a une espèce de joie extraordinaire de conquérir le temps, de dépasser les limites naturelles qui nous enferment à tel moment et à tel lieu. Conquête du temps, conquête du lieu. Conquête du temps, c'est la vitesse. Pourquoi aime-t-on aller vite? On a tout ça, la fringale de la vitesse. C'est pour ça qu'il y a tant d'accidents, du reste. Alors, il y a des raisons quelquefois tout à fait impératives pour arriver à telle heure, à tel endroit, c'est autre chose. Mais indépendamment de ça, si on sait qu'on peut aller vite, on va vite. Et quand on est avec quelqu'un qui va au train de tortue avec une très belle voiture, on dit, mais qu'est-ce que c'est ici, quoi? Pourquoi c'est une belle voiture? C'est illogique. Il peut aller vite, mais qu'il aille vite. Si vraiment, si des éléments. C'est très intéressant, du reste. Et qui est ce passage de la phusis. Alors pensez tout de suite, hein. Quand vous parlez de la phusis, pensez tout de suite. Phusis. Matière. Forme. Première distinction. Est-ce que, de fait, il est encore légitime à la fin du XXe siècle, après la découverte de la chimie organique et inorganique, après la découverte de la physique moderne, est-il encore légitime de parler des éléments? Ou est-ce que c'est une vue simpliste, grossière, pas une cause, c'est un fondement. Du côté du fondement, l'élément. travailler dans l'ordre de la réalisation existentielle, élément. C'est pour ça que c'est un pause. Comment la nature, de fait, se présente à moi dans la réalité? La nature se présente à moi dans la réalité comme la terre, l'eau, l'air et le feu. Ils sont toujours mélangés, mais il y a une note dominante. Et quand il y a cette note dominante, je parle du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Donc il faut bien comprendre ce passage du tiesti au pause. Et c'est là qu'on le voit le mieux. C'est pour ça que je vous le rappelle. L'interrogation nous fait découvrir les principes. Le tiesti, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il y a de premier, et ce qui peut être cause. Quand je regarde comment cela se trouve réalisé, comment cela existe-t-il, et que je veux saisir le comment radical, fondamental, je suis en présence de l'élément. Alors vous voyez, ce qui est intéressant à bien noter, c'est que entre le principe et l'élément, il y a quelque chose de commun. Tous les deux sont premiers dans un ordre donné. Le principe est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. La cause est première dans l'ordre de l'être et de du devenir. L'élément est premier dans l'ordre d'un tout. C'est le fondement. Le fondement est premier. Et le fondement existe comme premier. Il existe réellement. Tandis qu'au contraire, le principe n'existe jamais comme principe dans la réalité. Il n'y a que l'intelligence qui saisit le principe comme principe. Parce que ça implique quelque chose d'universel. Tout principe est universel. Tandis que l'élément n'est pas universel. C'est telle réalité. Mais réalité, dans ce qu'elle a de fondamental, dans ce qu'elle a de caractéristique, dans ce qu'elle a de pur. Vous voyez ce passage entre les deux. Alors, comment découvrir les éléments et que représentent ces différents éléments? C'est quand même très intéressant, ça. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux grands mouvements. Naturellement, il y en a trois, mais il y en a deux qui sont plus immédiates. Le mouvement local et le mouvement d'altération. Eh bien, ce qui est très curieux, c'est que le mouvement local me fait découvrir deux sortes d'éléments. Le mouvement local vers le bas. Le mouvement local vers le haut. Il y a certaines réalités qui naturellement descendent et certaines réalités qui naturellement montent. L'expérience du mouvement naturel. On a tous fait cette expérience-là, si vous ne l'avez pas encore faite, faites-la. C'est évident que quand vous lâchez quelque chose, ça va tomber, c'est évident. Première fois où le gosse, on lui donne une très belle statue, un très beau verre. Je me souviens de ce japonais qui voulait que son enfant ne touche que des verres de très grande qualité. Pas fabriqués. De façon telle que, même s'il tombe, il ne se casse pas. Mais là, vraiment, des verres de cristal. Parce qu'il avait ce souci que son enfant ne devait toucher que des choses nobles et surpasses. Ça, c'est très dangereux, je dirais ça. Les enfants qui jouent avec le feu. Me souviens, moi, j'ai une vision là-dessus, c'était pendant la guerre. On allait à Paris en bicyclette, et quelquefois par la neige. Et alors, il y avait très peu de monde sur la route. Je vois deux petits bonshommes. La neige, ça se voyait, bien emmitouflé, bien emmitouflé. Puis tout d'un coup, un grand feu qui part d'eux. Ils s'amusaient avec des allumettes. Je comprends avec la neige. Voir si la neige fondait sous l'allumette, vous voyez. Et alors, tout d'un coup, ça sent tout un mauvais mouvement. C'est pas tombé sur la neige, mais c'est tombé sur leur costume. C'était vraiment. J'étais le plus vite possible pour le rattraper en bicyclette, à toute vitesse. Quand j'avais dit, c'était vraiment en feu. Je les ai roulés dans la neige pour essayer d'arrêter. Heureusement, c'est arrêté. Mais c'était vraiment déjà très brûlé. J'ai arrêté une voiture pour demander à conduire immédiatement à l'hôpital. Ce qui s'est fait, puis après, je ne pouvais plus suivre. Et on voit très bien le jeu, la séduction du feu chez les gosses.
Le feu.